comment ils mettent une de leurs capotes sur les morceaux de verre pour pouvoir escalader. Ils racontent aussi comment, pour monter le long d'un mur, ils n'ont aucun autre moyen que leur propre couteau. Ils ont des couteaux, ils plantent les couteaux dans le mur et ça fait comme des marches. Tour à tour, un couteau, comme ça, ils arrivent à grimper. Et enfin, ils arrivent à sortir de cette citadelle dont on ne sort pas. Et ils vont prendre le large dans cette nuit, cette pluie, ce froid. Et ils vont se diriger sur le phare de Kerguelen. Imaginez les deux fuyards rampants entre les sentiers, les fossés, les ruisseaux, la lande rugueuse et les ajoncs épineux se guidant sur le phare de Belle-Île-en-Mer, le phare de Kerguelen. Et dans le récit qu'il fait, l'historien Maurice de Manget dit qu'il se guide sur la lumière rouge du phare. Ce phare n'a jamais eu de lumière rouge, blanc, jaune si l'on veut, mais jamais rouge. Mais bon, c'est Blanqui quand même. C'est Blanqui et son collègue Casavant qui tâchent de s'enfuir, et c'est pas rien. Une petite chose à dire, à ajouter à ce que disait tout à l'heure, à l'instant, Eric Hazan et Daniel Ben Saïd, dans cette histoire-là, c'est le rôle des femmes, notamment à Belle-Île-en-Mer. Il y a 300 détenus politiques et leur famille et leurs femmes sont très souvent là, logeant au port, à le palais. Et parmi ces femmes, il y en a une qui est toute petite, aussi petite que son fils. Blanqui était un homme très très petit. Toute petite femme, âgée, très rusée, et qui partage toutes les opinions et toutes les idées de son fiston, et qu'on appelle la veuve Blanqui. Blanqui a été aidée par sa mère, la veuve Blanqui. Elle a 75 ans, elle est aussi menue et sèche que son fiston, et elle a soutenu son fils pendant toute sa vie. C'est-à-dire qu'elle venait ici, elle parvenait à lui faire passer des documents, des livres, des courriers, des journaux, du papier, et lui donnait les textes et les lettres qu'il écrivait et qu'elle communiquait ensuite. Elle a été vraiment la militante de son propre fils. Alors, au cours de ses séjours, ici, à Belle-Île, la mère d'Auguste Blanqui s'était rendue à Kerguelen, c'est-à-dire le village au pied du phare de Belle-Île-en-Mer. Et là, cette vieille dame avait séjourné à l'auberge, s'était renseignée, et on avait conclu que c'était de là qu'il fallait partir et faire des arrangements avec des pêcheurs susceptibles d'emmener les fuyards jusqu'à des navires qui croisaient là au large vers l'Angleterre ou vers l'Espagne, ou vers le Portugal, mais certainement pas de rentrer en France. Elle avait fait autre chose aussi, c'est qu'elle avait apporté de l'argent à son fils, à Auguste Blanqui, qu'elle avait trouvé parmi les soutiens à Blanqui. Il avait aussi de l'argent en vue de cette évasion, qui avait été collecté parmi les détenus eux-mêmes qui soutenaient Blanqui. En tout, il avait 1200 francs or. Je ne sais pas très bien ce que ça représente, mais c'était une somme considérable. Casavant avait de l'argent aussi. Et ils sortent, ils ont réussi enfin à s'extirper de la citadelle. Ils vont suivre la Saline, au fond du port de Palais, et ensuite, ils vont se diriger vers le phare de Kerguelen, mais ils vont éviter les chemins. C'est-à-dire qu'ils vont traverser les fondrières, les étangs, les flaques, les ronces, sous la pluie, dans le froid. Ils vont se diriger comme ça, jusqu'au pied du phare, jusqu'à Envague, un lieu dit qui s'appelle Envague, et jusqu'à Radenec.
Pendant que sur la mer profonde, Les cachalots